tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marivonne Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, le costume du président et la 5e République, une série documentaire de Christelle Le Polothèque réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a le résultat de ces élections et ce quinquennat inédit qui commence, et puis il y a des questions. Qu'est-ce qui fait qu'une fois élu, un jour on remplisse le costume et qu'on incarne la fonction? Qu'est-ce qui fait de l'homme un président? Y a-t-il l'ombre du roi soleil, du petit lever et des perruques poudrées cachées dans le placard républicain? Et puis il y a cette idée qu'il faut apprendre à être président après avoir été simple mortel et ne pas laisser trop de traces de doigts sur les miroirs biseautés. Et enfin, cette envie de décoder les rituels entre garde républicaine, légion d'honneur, passation, chasse à cour et photos officielles. Alors pour commencer, les personnages. Une journaliste qui scrute, un historien de la symbolique républicaine, des chasseurs, un historien des voyages présidentiels, VGE, moderne et compassée, une historienne de la monarchie. Ensuite, le décor. Les jardins de l'Élysée, les domaines de chasse de Chambord, une cabane toute simple, le brame du cerf, des rituels vides de sens, le souvenir d'un roi guérisseur et la pluie sur les élus dans les 4x4. Aujourd'hui, deuxième épisode, le défilé a commencé.
Nous nous excusons d'interrompre nos émissions. Vous allez entendre maintenant un reportage en direct des Champs-Élysées. En direct des Champs-Élysées, Alain Fernbach.
Eh bien oui, ici les Champs-Élysées et le président de la République, Georges Pompidou, arrive à l'instant même à l'Arc de Triomphe dans une voiture découverte. La voiture du président de la République est encadrée par un escadron de 72 cavaliers, derrière aussi un autre escadron de 72 cavaliers.
Le costume du président est la 5e République, le rituel élyséen. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et Vincent Deck.
Un détachement de la garde républicaine présente en ce moment les armes et la musique sonne au chant pour saluer l'arrivée de Georges Pompidou, 19e président de la République française. Très détendu, le Premier ministre, qui est en jaquette, écoute maintenant la Marseillaise. C'est la première sortie publique, la première sortie officielle de Georges Pompidou, président de la République.
Commémorer et discourir, inaugurer, trôner, serrer des mains, parcourir inlassablement le territoire national, poser pour la photo officielle et remonter les Champs-Élysées. S'installer au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Passer par la grille du coq. Quand on s'absente, faire retirer le drapeau tricolore qui flotte au-dessus de l'entrée. Être le premier partout, ne plus avoir d'égal. C'est le rituel qui fait le président de la République. C'est par lui qu'il va pouvoir s'incarner, devenir la fonction, s'effacer peu à peu au profit du rôle, devenir un autre.
La salve des 21 coups de canon tirés des berges de la Seine commence à retentir dans Paris, cependant que M. Pompidou va apposer sa première signature officielle de président de la République, signature du compte-rendu de la cérémonie de ce matin.
Olivier Hill, qu'est-ce qu'il signifie ce rituel d'investiture ?
Je crois que l'un des rituels qui est le plus révélateur de ce rôle que le chef de l'État, président de la République, incarne, c'est l'investiture. C'est ce moment à la fois tout à fait solennel, défini par le chef de l'État lui-même, où il expose pour la première fois la transmutation qui s'est opérée dans son corps. Il était candidat, souvent leader d'un parti. Il était apprécié dans les sondages, les enquêtes d'opinion, et puis le voilà soudain, par la magie des urnes, transformé en une figure charismatique. Il est le président de la République. Il est la première figure qui donne visage à l'État, dont le corps lui-même est l'État. Lorsqu'il voyage, lorsqu'il dépose une gerbe, lorsqu'il prend la parole. C'est donc, à ce moment-là, dans les quelques heures qui suivent, cette investiture qu'on voit réellement s'opérer cette alchimie. Et le corps simple, ordinaire, banal, de tel ou tel, devient un corps symbolique, investi de mille attentes, et puis surtout un corps protocolaire, qui transcende tous les corps d'État, et qui vient en quelque sorte donner sa vérité au fonctionnement de cette myriade de services, de cet enchevêtrement de fonctions qu'on appelle l'État. Et là, il y a quelque chose évidemment qui est très puissant. Et c'est donc à chaque fois quelque chose de singulier qui emprisonne une symbolique d'État, l'idée que, voilà, il est désormais face à l'histoire, il la regarde dans les yeux, et il noue un contact quasi secret avec cette histoire. Il va entrer dans l'âme même de la nation France pour parler avec elle ou tenter d'avoir un échange spécifique avec elle.
Le rituel d'investiture, Patrick Garcia, comment il a évolué ?
Alors, il y a une histoire de ces investitures, parce que, en fait, l'investiture change après-guerre. Après-guerre, celle de René Coty se fait presque en catimini, au début de la 4e République, et quand arrive l'élection de Vincent Auriol, Coty essaie de lui donner du lustre. Donc, c'est une cérémonie qui commence à être retransmise à la télévision, aux actualités françaises, qui va se traduire par la prise de possession du pouvoir, avec la remise et le port du collier de Grand Croix de la Légion d'honneur, cérémonie qui se fait en habit, avec tout un rituel, à la fois salut au drapeau, rencontre des corps constitués. Alors évidemment, les choses, comme tout ce qui concerne le président, changent avec l'instauration de la cinquième, hein, puisque avec l'instauration de la cinquième, eh bien, on a une vraie cérémonie.
C'est un moment qui emprunte de nombreux éléments à la monarchie.
Un rituel composite. Il y a un aspect militaire. Hein. On va avoir la marche consulaire. On a le salut au drapeau. On a la Marseillaise, hein, dans les jardins de l'Élysée. On a la salve. Parce que de toute façon, toute le rituel républicain a aussi été bricolé avec des éléments épars, des éléments qui tendent à prouver la majesté de la République. Alors, on a là d'abord un rituel qui est hérité, codifié jusqu'à Giscard, hein, donc avec le port du collier de Grand Croix de la Légion d'honneur, l'habit, la proclamation des résultats par le président du Conseil constitutionnel, ce que Giscard trouve comme un geste compassé. Et il entend changer le style pour moderniser la République, rapprocher le président des Français, ce qui donne une investiture très nouvelle, où Giscard d'Estaing arrive à pied à l'Élysée, sous le regard de Léon Zitrone, qui l'interpelle. « Comment allez-vous, monsieur le président ?» Il est en costume, il se fait montrer le collier de Grand Croix, et
il ne le porte pas.
Il ne le porte pas, il se le fait montrer, et tout change, puisque la photo officielle n'est plus celle de la tradition, avec un président en habit portant le collier, mais une photo en costume. C'est quelque chose qui est un changement définitif.
Je vois le cortège officiel, 4 déesses noires, une huitaine ou une dizaine de motards, et puis, de part et d'autre, vous l'entendez, les bravos. Le président souriant se dirige maintenant vers les officiels qui l'accompagnaient pour les saluer.
Il est sorti de voiture.
Monsieur Gallet, le ministre des Armées, monsieur Alain Poher. Et voilà, et le président Giscard d'Estaing remonte bien au milieu, les Champs-Élysées, tranquillement, très décontracté, souriant, levant la main et répondant aux bravos de la foule.
Dans ses mémoires, Giscard revient sur cette remontée des Champs-Élysées. J'ai suivi avec attention, tous les 4 ans, la cérémonie d'intronisation du président des États-Unis. C'est une solennité qui remplit Washington de festivités et de bals et qui rassemble une foule considérable. En France, sous la 4e République, l'entrée en fonction d'un président était un événement secondaire, peu ou mal vécu. Je me souvenais avoir assisté, par curiosité, à l'arrivée à l'étoile du président Vincent Auriol. Les trottoirs des Champs-Élysées quasi déserts, la chaussée débarrassée des autos par la police Et le président de la République, dans une voiture découverte d'un vieux modèle, debout, en habit, adressant des saluts à une foule absente. Je ne voulais pas recommencer cela. J'avais annoncé mon intention de remonter les Champs-Élysées à pied, à partir du carrefour Georges V jusqu'à l'Étoile. Avant de quitter l'Élysée, Edgar Faure, qui devait m'accompagner comme président de l'Assemblée nationale, me prend à part. « Vous savez, Valérie, vous me permettez encore de vous appeler Valérie, je ne trouve pas bonne votre idée de marche à pied. Je crois que cela choque beaucoup de gens. On verra bien. De toute façon, il est trop tard pour changer. »
Que tout soit de la partie. Et je dois dire qu'il prend nettement de l'avance sur nous parce qu'il a un pas gymnastique, si j'ose dire, si vous me permettez l'expression. Et nous allons essayer quand même de le rattraper. Je vais laisser quelques secondes l'antenne à Jacques Chabot pour essayer de piquer moi aussi mon 100 mètres.
Voilà le président qui revient maintenant à pied vers le palais. Content, monsieur le président ?
Très content. C'était comme je le souhaitais, très naturel, très vivant, très jeune.
Cet accueil vous a surpris, vous a fait très plaisir.
Il m'a touché, il ne m'a pas surpris.
Pour moi, cette cérémonie, c'était deux choses. C'était d'abord l'idée que je me fais du président de la République française, c'est-à-dire qu'il doit être un président moderne, qui doit respecter la dignité de la France et son histoire. Et à cet égard, qui doit rechercher des formules nouvelles. Par exemple, la remontée des Champs-Élysées, vous l'avez vu, il n'y a pas de cérémonie qui puisse être plus belle en raison à la fois du cadre et de la population qui était là.
Étiez-vous ému ?
Oui, j'étais ému.
C'est le nouveau style de l'Élysée, alors, monsieur le président ?
C'est le nouveau style de la France.
Bertrand Evenot, vous avez travaillé auprès de Valéry Giscard d'Estaing. Quand on voit cette cérémonie d'investiture, il est en costume de ville, au lieu d'être en habit, il marche sur les Champs-Élysées. C'était quelque chose de spontané. Il avait réfléchi à la manière dont il voulait exercer.
Non, il avait lui-même son idée. C'est effectivement un homme qui a toujours réfléchi à la mise en scène de soi. Clairement, d'ailleurs, comme il a aussi réfléchi à sa sortie et qui était plutôt ratée avec la chaise vide, etc. Il a vraiment réfléchi à ça. Il y a eu chez Giscard un souci d'apparaître comme un président jeune et moderne, hein. D'où la photo pendant sa campagne de 74 où il y avait sa fille, qui n'était pas de face mais qui était quand même de profil, une jeune fille, donc représentant l'avenir. D'où ses dîners chez l'habitant ou ses réceptions ici ou là. Bon, je crois que tout ça était déjà une sensibilité marquée quand même aux affaires de communication. Il y avait ce souci, si vous voulez, de gommer le côté notable, le côté aristocrate, le côté grand bourgeois, d'où l'accordéon avec Yvette Horner, d'où un certain nombre de gestes, etc. On sentait bien qu'en arrière-plan, il y avait le mythe de Kennedy ou de gens comme ça. Il y a vraiment une recherche, si vous voulez, de sa vision de la modernité. Si vous voulez, la question de la modernisation, qui au fond, c'est intéressant cette question, avait été abordée par Pompidou sous l'angle de l'industrie. Hein. Pompidou avait une vision très claire de la modernisation industrielle de la France, des entreprises, etc. Giscard a pris un autre angle, donc avec un angle effectivement de communication personnelle, consistant à avoir des gestes vis-à-vis de l'opinion qui pouvait attester d'une modernité. Et puis, je pense qu'il a bien sûr continué la politique industrielle, mais il a cherché, comme il le disait même, à décoincer un peu la société française, d'où effectivement l'énorme choix très important sur l'IVG avec la loi Veil, hein, et en même temps la volonté de construire une image donnée à voir au public et aux journalistes.
Comme on rentre de plus en plus dans une société de médiatisation, la question, ça va être comment marquer l'investiture, comment lui donner sens. Alors, il y avait traditionnellement la remontée des Champs-Élysées avec des motards ou avec la cavalerie de la garde républicaine vers l'Arc de Triomphe. Mais comment donner encore plus de sens ? Et ça, la chose va se produire avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir et la cérémonie du 21 mai au Panthéon, hein, où d'un geste qui est entre le couronnement, l'investiture et la manifestation, François Mitterrand se retrouve au Panthéon à la tête d'une manifestation pour aller déposer une rose sur les tombeaux de Jean Moulin, Victor Schœlcher et Jean Jaurès. Donc voilà, on est dans une politique où le moment de l'investiture n'est plus simplement une prise de fonction, mais doit indiquer une espèce d'esprit dans lequel la fonction est prise.
C'est à pied et avec le peuple de Paris qu'il va gravir cette rue qui le conduit au Panthéon. C'est le premier bien de foule du président de la République. L'orchestre de Paris, placé sous la direction de Daniel Barenboim, accompagne le président. Regardez. François Mitterrand se dégage de la foule, deux roses à la main. Il pénètre seul à l'intérieur du Panthéon. L'orchestre de Paris joue maintenant l'hymne à la joie. Le président de la République va se recueillir devant les tombeaux de Jean Jaurès et du résistant Jean Moulin.
Chemin, ce qui a été assez curieux, je trouve, avec le président Mitterrand, manifestement, en tout cas, ça a frappé ses proches très certainement au début, c'est la manière, alors que c'était un premier président de gauche, je pense, 5e République, et dont il a investi l'Élysée et les hauts lieux. Je pense notamment à Versailles, il y a l'un des premiers dîners du G7 va se passer à Versailles. C'est-à-dire que cette manière extrêmement naturelle avec laquelle il va prendre possession, en fait, de tous ces lieux, de tous ces...
La vérité, c'est que c'est le premier président du Parti Socialiste qui arrive au pouvoir, mais qu'au fond, il a une culture provinciale et une culture de droite. Il a une culture de droite, et en ce sens-là, il a une culture à la fois du terroir, il a une culture littéraire immense, il aime l'histoire de France. Donc d'une certaine manière, quand il devient président, ça peut surprendre certains, parce que c'est peut-être pas forcément la geste qu'ils attendraient d'un président socialiste, mais au fond, il se coule extrêmement bien. C'est peut-être celui, paradoxalement, qui se coule le mieux dans les habits du président de la Ve République, alors qu'il vient effectivement d'un mouvement qui a contesté et qui a protesté. Un parti qui a protesté contre cette Ve République. Il est cet homme de la Quatrième qui n'a cessé de lutter contre la Ve République, qui a écrit le coup d'État permanent, et c'est peut-être celui qui s'est mieux coulé dans les institutions de la Ve et qui a le mieux porté les habits de président de la République.
Alors, ce qu'on peut, c'est passer devant l'hôtel, Philippe, l'hôtel Saint-Michel, qui a été le lieu d'accueil de rendez-vous de plusieurs présidents, parce qu'en fait, il n'y a pas de capacité d'accueil dans le château lui-même. Et donc, pour les chasses présidentielles à l'époque, les rendez-vous se faisaient là-bas. Et puis, je propose qu'on aille aussi en forêt, au pavillon de la Thibaudière, qui est une petite sorte de datcha en bois, au bord d'un étang, tout au milieu du domaine, qui avait été voulue par Pompidou et puis construite, ou en tout cas achevée par Giscard.
Quelle est pour vous l'image la plus forte des chasses à Chambord, Jean d'Ossonville, où vont se perpétuer des usages intimement liés au pouvoir qui condensent en eux-mêmes tout le décorum et toute la survivance monarchique de la Ve République?
Le soir d'une battue, les voitures arrivent en convoi, tout feu éteint, avec en fond le château qui est légèrement illuminé, et c'est comme une sorte d'apparition au milieu de la forêt. C'est très mystérieux, très poétique. Giscard d'Estaing, d'ailleurs, disait de la chasse à Chambord qu'elle est une expérience esthétique. Il avait raison. Là, au milieu, donc, dans le carré qui est délimité, c'est là que sont présentées les dépouilles des sangliers.
En fait, là aussi, sur l'avenue du Roi, c'est là que le président Mitterrand avait fait une petite marche avec le chancelier Kohl quand il l'avait reçu. Là.
Et une harde de serres,
de serres.
Et Mitterrand disant à l'ancien commissaire, mais vous êtes un magicien, parce que par chance, la harde était arrivée juste au bon moment. Et donc, c'est amusant de penser que nos présidents de la République se réunissaient au rond Henri V, sous une paillote qui avait été construite par les Bourbons-Parme, donc les derniers princes qui avaient Chambord avant la guerre de 14, et que finalement, la République, à la fois protégeait les lieux et avait repris un peu l'usage des lieux. Mais quand vous regardez la France, quasiment tout le rituel du pouvoir reprend des lieux de l'Ancien Régime. Après tout, le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, c'est la promenade Louis XV. L'Arc de Triomphe, c'est Napoléon Ier, c'est pas l'Ancien Régime, enfin, c'est pas vraiment la République non plus. Le Palais Bourbon, c'est l'Assemblée nationale. L'Élysée a été un palais princier également. Le Sénat, c'est le Luxembourg. Quand le Congrès se réunit à Versailles, on est bien dans le lieu de la royauté. Et il me paraît important, François Mitterrand avait une très jolie formule lorsqu'il avait accueilli le G7 à Versailles. Il disait « La République est dans ses meubles ». Il avait raison, c'est-à-dire que la République est à la fois protectrice du patrimoine de l'Ancien Régime, en fait du patrimoine de la France dans sa continuité, et elle en fait l'usage au service de la nation et au service de la glorification de la République.
Gagner la Thibaudière. Au fond, vous avez l'étang des bons hommes, là, c'est une douzaine d'étangs sur le domaine.
Le président se trouve actuellement dans le salon des ambassadeurs où se tenait le conseil des ministres sous la quatrième.
Présentez.
Apercevez le chef du protocole, le général d'armée Schmitt, le chef d'état-major des armées, et le général d'armée aérienne Fleury, le chef de l'état-major particulier. Le salut au drapeau.
Patrick Garcia, De Gaulle, Pompidou étaient en habit pour les cérémonies officielles. C'est Giscard, donc le premier, qui va introduire le costume de ville. Ça va être la même chose avec la photo officielle.
Tout à fait. C'est-à-dire que quand on regarde les photos de De Gaulle ou de Pompidou, on est encore très près du portrait monarchique, portrait en pied, montrant la majesté, donc avec les symboles du pouvoir, hein, en bibliothèque. On est sérieux. Donc il y a effectivement là quelque chose comme une rémanence du portrait du roi. On change complètement avec Giscard, puisque le portrait ne se fait plus dans la bibliothèque, parce que c'est en plein air. Mitterrand reviendra dans la bibliothèque en ayant à la main les essais de Montaigne, mais autrement, c'est en plein air, dans le jardin de l'Élysée, pour Hollande, derrière un drapeau bleu-blanc-rouge pour Valéry Giscard d'Estaing. Donc là, il y a un vrai changement d'apparence qui renvoie à un désir de modernisation, peut-être aussi de diminuer la distance entre le président et les Français qui aurait pu apparaître comme un archaïsme.
Bah, la seule belle photo officielle, à vrai dire, c'est celle de Giscard, enfin la plus originale, c'est celle de Jacques-Henri Lartigue. Ce drapeau qui flotte derrière et non pas l'image du bâtiment Élysée. Donc c'est vrai que c'est une image beaucoup plus moderne, plus légère d'une certaine façon, à cause de ce drapeau flottant. Plus moderne, comme aucun autre président n'a été capable de le faire. C'est vrai que celle de Nicolas Sarkozy ne ressemble pas à ce qu'était Nicolas Sarkozy profondément. Cette photo calquée, au fond, imitée des photos de De Gaulle et de Mitterrand, avec lui très figé devant sa bibliothèque. Donc elle ne cadre pas avec ce président plus dynamique, en fait, qu'il voulait être. Quant à la photo de François Hollande, c'est vrai qu'il est un peu dans l'ombre, avec cet Élysée au loin. On a le sentiment qu'au fond, il n'y arrivera jamais, quoi, hein, qu'il sera jamais dans le palais. Donc, ça dit quelque chose, toujours, un peu, les photos.
Et puis, le choix du photographe, dans le cas de Chirac, Bettina Reims, voilà, ça veut dire quelque chose aussi.
Tous les choix de photographes sont intéressants. Donc, Giscard choisit Jacques-Henri Lartigue, qui est aussi une grande famille aussi, hein. D'abord un très grand photographe, mais aussi un photographe dont il connaît le travail, qui est un photographe très célèbre de l'époque, il est toujours, mais qui est aussi un photographe qui socialement lui correspond. Mitterrand va choisir Gisèle Freund, qui est vraiment très grande photographe d'écrivain. Le cas le plus étonnant, c'est encore une fois celui de Nicolas Sarkozy, qui choisit un photographe people pour faire une image académique. Quant à François Hollande, il choisit Raymond Depardon, qui est un photographe aussi qui a beaucoup photographié les Français, surtout, avant toute chose.
Et ces photographies disent énormément de choses sur la manière dont l'institution présidentielle fonctionne symboliquement. On y retrouve un canevas, toujours le même, c'est-à-dire un chef de l'État qui fait face au regard des citoyens, devant l'Élysée ou à l'intérieur de l'Élysée, qui en quelque sorte s'institue par son corps comme porte-parole de la nation dans cette photographie, mais on y retrouve aussi des choses singulières. Depuis l'habit désuet, grandiloquent, et la décoration de compagnon de la libération qu'arbore le général de Gaulle dans la bibliothèque de l'Élysée, à la posture, là aussi très majestueuse, de François Mitterrand, la main sur les Essais de Montaigne, hein, pour lui au fond, la France c'est d'abord les forces de l'esprit, qu'elles soient littéraires ou philosophiques, jusque à Jacques Chirac qui sort de l'Élysée, qui rejoint les jardins, et puis qui est dans ce rôle presque d'un guide, qui nous fait entrer dans l'Élysée, comme une sorte de médiateur qui semble nous dire « mais vous aussi, vous allez entrer à l'Élysée avec moi hein, », donc une sorte de président beaucoup plus proche, hein, jusque à François Hollande, qui lui aussi va vouloir traduire cette normalité enfin reconquise. Donc ces photographies officielles, elles disent énormément de choses sur la manière dont l'institution présidentielle habite la Ve République.
Oui, oui, c'est simple, hein. Ça vous déçoit. C'est une sorte de grande cabane en bois, et avec un petit peu de transparence au début, qui est une esthétique un peu années 70, et qui donne sur un étang. Et on est au milieu de il y a la forêt domaniale de Boulogne, de l'autre côté, il y a 10 000 hectares de bois autour de nous en réalité, à vol d'oiseau. C'est un lieu très calme. Et la construction a été entreprise sous Pompidou et puis terminée sous Giscard d'Estaing. Et c'est un lieu de rendez-vous de chasse pour des repas très simples, en milieu de journée.
Et quel rôle elle joue alors dans les chasses présidentielles ?
Ben, en fait, elle joue un rôle de convivialité, de cordialité. C'est-à-dire qu'ils sont contents de se retrouver au coin d'un feu, autour de la cheminée centrale. Et ce qui est assez amusant, c'est que parfois les gens se font des mythes sur les chasses présidentielles en disant ça y est, ça va être doré partout. Et en réalité, non, le déjeuner, donc le repas principal, il se fait dans une cabane de bois, au milieu des bois. En fait, c'est très intime. Je sais que sous le président Giscard d'Estaing, les battues se faisaient avec 12 carabines.
C'est vrai qu'il n'y a pas de grand tralala, c'est tout simple, hein, en fait.
En fait, sous le président Giscard d'Estaing, il devait y avoir encore 2 millions, 2,5 millions de chasseurs en France. Aujourd'hui, il y a 1 200 000 chasseurs. Et on était à la fin d'une époque où beaucoup de chefs d'État et de gouvernement chassaient. Donc on est encore dans une fonction régalienne de la chasse qui est plutôt proche du 19e siècle. Et donc, sous Pompidou, sous Giscard, on a des proches des présidents. On a des gens importants dans la société française. Donc ça peut être effectivement des gens du monde des affaires, ça peut être des parlementaires aussi, une manière de leur parler autrement que dans un bureau, d'une manière moins guindée.
Et puis après, il y a donc la dernière grande période, vous diriez, c'est sous Mitterrand.
Oui, sous le président Mitterrand, on a le comité des chasses présidentielles et on est encore à une époque où le président de la République valide lui-même la liste d'invités. C'est-à-dire qu'on a un président qui n'est plus chasseur, mais qui se dit que les chasses sont un instrument de relations publiques pour l'État, c'est une manière de remercier. Et donc, François Mitterrand crée un comité des chasses présidentielles autour de François de Grossouvre et veille aux listes de chasse. Mais il ne vient jamais à la chasse. Il est venu deux fois. Il est venu une fois écouter le brame confidentiellement. Et il est venu officiellement accueillir le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, donc qui était Helmut Kohl à l'époque.
A donc commencé ce matin en Lorraine le premier voyage de son septennat dans les régions, une visite dans ce qu'on appelle la France profonde, une visite surtout au pays de la crise, puisque la Lorraine est parmi les plus touchés par le chômage et la faiblesse économique. Une sorte de tour d'automne présidentiel où le chef de l'État découvre, un peu comme le ferait un journaliste, des régions aux sensibilités, aux difficultés, mais aussi aux atouts très différents. Évidemment, l'enjeu n'est pas le même, les journalistes informent, le président, lui, regarde, écoute et décide. Ce matin donc, le président s'est arrêté deux fois à Dompaire et à Épinal. Sur place, un des envoyés spéciaux de France Inter, Dominique Souchier.
Il y avait là beaucoup de monde, comme quelques instants plus tard à Épinal, des enfants des écoles, des lycéens et des travailleurs. La ville a offert au président un manuel scolaire d'histoire écrit par le maire adjoint d'Épinal et où figure pour la première fois en toutes lettres le nom du président Mitterrand.
Il est normal que le président de la République française aille à la rencontre du peuple français dont vous êtes ici les représentants. Il est nécessaire aussi que ce voyage soit la marque que nous voulons...
Nicolas Mariot, il y a un autre rituel présidentiel incontournable, c'est le voyage en province.
Tout au long du XXe siècle, tous les présidents de la République, ça ne change pas, ils font en moyenne 6 voyages par an, parce que ça permet de donner à voir 30 secondes, parfois 2 minutes, mais au moins 30 secondes, le chef de l'État qui se donne à voir comme serrant des mains, s'approchant du peuple. Et ça marche de façon très efficace avec... une technique journalistique, enfin deux formes en fait. Au début du siècle, avant la télévision, c'était la dépêche d'agence. Et puis avec l'arrivée de la télévision, c'est la formule du pool télévisé, c'est-à-dire qu'on dit à une chaîne et puis on les fait tourner, bah c'est vous qui allez filmer cette fois-ci le chef de l'État. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la caméra du pool télévisé, la caméra suit le chef de l'État. Et puis on dit, ben, on vous laisse filmer proprement pour qu'il y ait de belles images, quoi. Mais du coup, c'est une image qui favorise complètement le chef de l'État parce que elle fait comme si on suivait des applaudissements ininterrompus. C'est comme au Festival de Cannes où tout, on peut pas rester sans rien faire. Donc, on adopte le comportement attendu dans ce type de circonstances qui est acclamer, applaudir, ou au minimum applaudir, poliment. Et du coup, la caméra du pool télévisé, eh ben, comme elle suit le chef de l'État, elle ne filme que des applaudissements. Or, c'est absolument pas le cas. Et c'est en ce sens-là que la visite présidentielle reste un instrument politique efficace pour montrer un minimum de popularité. Et on le voit encore, même dans un cas comme François Hollande, dont on sait que il a eu beaucoup de mal à incarner la figure présidentielle, il a été impopulaire très tôt, très très vite, et ben même pour lui, malgré tout, on garde cette image de « ah ouais, il est resté tête nue sous la pluie, il a accepté, il a continué à aller voir les gens, même quand on le sifflait, etc. etc. »
Ce cas de la pluie, Nicolas Mariot, vous y revenez. C'est aussi le cas avec De Gaulle. Il y a cette pratique de refuser le parapluie, puisque tous les Français qui sont là et qui attendent sous la pluie n'en ont pas.
C'est une pratique très largement partagée. En fait, depuis Louis-Philippe au XIXe siècle, on a vu, il a laissé des lettres à sa sœur, où Louis-Philippe, il y a son aide de camp qui met trop longtemps à lui apporter son manteau quand il se met à pleuvoir. Et du coup, il s'aperçoit que ses sujets se mettent à acclamer follement en disant « Oh là là, il est tête nue sous la pluie comme nous ». Et il dit « Ça marche à fond, je vais recommencer cette affaire-là ». Bon, et puis on s'aperçoit que petit à petit, ben tous les chefs de l'État l'ont pratiqué. On dit, alors est-ce que c'est vrai, j'en sais rien, que De Gaulle est un grand spécialiste, c'est-à-dire qu'il disait à son aide de camp là aussi, s'il pleut, amène-moi le parapluie pour mieux le refuser. Et puis Hollande a fait ça, et ils font tout ça en fait.
C'est avec Giscard que ses voyages en province, très 4e République, vont commencer à évoluer.
Lui essaye de moderniser les visites. Alors, en faisant quelque chose une espèce de mixte qui était relancer le format spectaculaire des voyages. Jusqu'alors, jusqu'à De Gaulle, on pourrait dire la visite est un événement local avec des spectacles à côté. Bal, feux d'artifice, décorations florales, etc., etc. Alors, Giscard d'Estaing essaye de relancer ça, mais sous une forme modernisée, puisqu'il est le président moderne, d'une France moderne, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il installe des spectacles populaires, ceux qu'on voit à la télévision, en fait, à l'époque, sous chapiteau. Et il convoque Michel Drucker pour chauffer la salle, etc., etc. On amène des chanteuses populaires de l'époque. Puis après, le chef de l'État arrive et ça va marcher moyennement au sens où ça fait trop campagne électorale, en quelque sorte. Et à l'inverse, Mitterrand, qui est un homme de la 4e République, fondamentalement, hein, c'est là qu'il s'est forgé politiquement, qu'il a tout appris. Il réitère, en fait, les visites provinciales des présidents sous la 4e et de Gaulle, évidemment. D'ailleurs, il y a participé en tant que ministre, Mitterrand. Donc, il sait parfaitement comment ça se passe.
Il y a aussi Solutré, il y a Lacché. Enfin, il va créer comme ça des sortes de points névralgiques avec voilà, une portée émotionnelle. C'est ça, un peu sa façon de s'ancrer dans le territoire français ?
Oui, il a un rapport effectivement au territoire très profond. Il construit cette légende-là aussi, il faut bien dire, hein, avec à la fois son ancrage électoral dans la Nièvre, on pourrait dire sa maison de cœur, Lacché, et puis la montée à Solutré, où on retrouve un peu le côté mystique, les forces de l'esprit, ce qu'il redira à la fin, où il fait monter ses fidèles tous les ans, sous la forme vraiment du pèlerinage, de se dire, je domine la France éternelle, celle de la Bourgogne, effectivement, des moines, etc., etc. Bon, c'était une chose importante, je crois, pour lui en tant que président socialiste. Après, je crois que c'était quelque chose qui, à la fin, tournait un peu à un ritualisme un peu vide.
Joyeux anniversaire! Pas un détail de la vie de ses concitoyens n'échappe en Corrèze à Jacques Chirac.
Oh, mais tu les as coupés un petit peu, hein? Un petit peu ta moustache, là.
Ça n'a pas vite changé. Il y a trop longtemps qu'on le connaît et qu'on a affaire à lui ici en Corrèze.
Pour nous, il est membre de la famille, pour nous.
Ça me fait plaisir de vous souhaiter une bonne année.
Bonne année.
Ah, on s'est déjà vu.
Jacques Chirac s'immerge donc parmi les siens. On se retrouve, on se tutoie, on s'embrasse. Et Bernadette Chirac tient sa place d'élu local. Pour le président de la République, un contexte rêvé pour promouvoir les réformes déjà entreprises et en appeler à la mobilisation de tous.
Il y a un voyage présidentiel un peu plus particulier, c'est... Donc ce retour aux sources, ce retour donc dans le fief électoral ou bien le lieu où le président a grandi, et ça va être l'occasion pour lui de se redonner un peu une forme d'humanité, de jouer comme ça avec un protocole très installé et en même temps de créer une proximité tout à fait artificielle, mais en tout cas...
Du point de vue de la proximité, elle n'est pas du tout forcément feinte lorsque le chef de l'État retourne dans sa circonscription, surtout si cette circonscription est l'endroit d'où est originaire sa famille. Alors, il n'y est pas forcément né, mais enfin bon, où il a grandi, en tout cas petit. Pourquoi ? Parce que ça a un effet très fort dont le président de la République joue beaucoup, c'est qu'il peut se relâcher. C'est un des rares moments où, effectivement, avec des gens qui ne sont pas forcément ses proches ou ses amis intimes, etc., il va pouvoir user du tutoiement, s'asseoir à table, manger, voire éventuellement pousser la chansonnette, faire ce genre de choses-là, manger beaucoup, on va lui servir des plats, on va rappeler les choses qu'il aime bien, ses petites madeleines de Proust à lui, qu'est-ce qu'il aimait bien manger quand il était petit. Et il retrouve des gens qui l'ont vu tout petit. Donc là, on a toujours l'image avec un gentil papy qui va dire « Ah bah oui, le chef de l'État, je l'ai connu quand il était tout petit, il aimait bien faire ceci, cela. » Donc c'est effectivement un moment où, je crois de façon pas complètement feinte pour le coup, il se montre en quelque sorte le plus humain possible ou le plus proche des gens possible. En ce sens-là, le retour dans son fief est sans doute moins artificiel que les autres visites ailleurs. Où là, forcément, il connaît personne et tous les gestes de rapprochement physique qui se sont imposés seulement au milieu du XXe siècle, hein, c'est-à-dire serrer la main, claquer dans le dos les gens, embrasser les bébés, ce genre de choses-là, le chef de l'État ne le faisait jamais avant Pétain. C'est Pétain qui, le premier sous Vichy, se met à s'approcher des ouvriers en disant « Voyez, contrairement au chef de l'État lointain, hautain de la République et tout, moi, je suis un homme proche du peuple, je suis un grand-père, etc., etc., et moi, je touche ». Donc, effectivement, la propagande de Vichy, sans donner à cœur joie, publie de très, très nombreux albums souvenirs des voyages présidentiels en province. Et c'est De Gaulle qui, assez vite, au moment de la libération, et puis avant sa traversée du désert au début de la 4e République, va reprendre ça, effectivement, et se mettre lui aussi, hein, en concurrence directe, un homme seul avec le peuple français à reproduire les gestes habituels de Pétain. Et puis après, ça va complètement se diffuser et il serait inimaginable aujourd'hui que le chef de l'État ne fasse pas ça. Le chef de l'État sous la Troisième République avant, c'était une reine d'Angleterre en gros, c'est-à-dire qu'il faisait coucou depuis sa voiture et puis c'est tout.
Et comment on fait alors si, comme Sarkozy, on n'a pas d'ancrage en province, quand on vient de Neuilly ?
Je pense qu'il en a malgré tout possiblement un peu souffert, oui, parce que c'est plus difficile, si vous voulez. Les chefs de l'État jouent beaucoup sur cette image du « chez-soi ». Je retourne chez moi, là où je suis bien, etc., etc. Et c'est difficile pour un chef de l'État de dire « chez moi, c'est Neuilly ». Voilà, la commune la plus riche de France, c'est compliqué. C'est compliqué quand on prétend incarner une égalité de statut avec les citoyens, etc., etc. Donc, en ce sens-là, oui, sans doute, il en a souffert. En même temps, et quoi qu'on pense de lui, Nicolas Sarkozy reste une bête de scène avec, là encore, quoi qu'on pense de lui, un sens du contact, un sens du peuple que certains peuvent trouver exacerbé, mais qui est présent. Il savait y aller, serrer des mains, etc. Voilà.
Voilà, donc... La Thibaudière, ben vous voyez, c'est une sorte de grand rectangle. Il y a une cheminée centrale. Donc imaginez, quand vous avez froid, vous arrivez, vous êtes accueilli par ce feu, c'est très bien. Il y a des tables rondes. Vous voyez les chaises un peu vintage, hein, années 50.
Et Giscard, il a continué à y aller régulièrement tout au long du septennat.
Valéry Giscard d'Estaing a chassé pendant tout le septennat ici à Rambouillet. Et c'était un chasseur de toujours. Et je pense vraiment qu'il y trouvait une forme de d'aération, quelque chose qui est important peut-être dans l'exercice du pouvoir. Alors Giscard est venu ici tirer le cerf à l'approche, mais il déployait un lipico ici, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment comme un gîte de montagne. Les gens disent datcha parce que en fait nous prête, une sorte de mythe, de trucs cachés de Chambord. En réalité, dans Chambord, ce qui est beau, c'est ce que tout le monde voit, c'est le château et puis cette forêt autour.
Et alors le soir, je me souviens d'une chose, c'est que à chaque battue présidentielle, il y avait un photographe de l'Élysée qui venait le soir au tableau. Et quand le président Giscard d'Estaing passait remercier tout le personnel forestier, il y avait des photos qui étaient prises. Et on avait des photos en noir et blanc à l'époque pour chaque agent en train de nous serrer la main.
Le protocole, comment ça se passait au cours de la chasse?
Oui, en fait, ce qui se passait, c'est que le président de la République, de toute façon, était toujours en position numéro un, c'est-à-dire dans un plan de table au milieu, ou dans une voiture à la place du passager devant. En général, il avait un placement spécial à un poste qui était quand même plus valorisant, parce qu'il y avait plus de gibier qui passait. Mais voilà, mais après, vous savez, quand vous déplacez en 4x4 en forêt, c'est simple, quoi. Et à l'hôtel Saint-Michel, il avait certainement une chambre un peu mieux que les autres. Enfin, c'était quand même la chambre d'un hôtel de province. Voilà.
Fanny Cosendet, même à la chasse, le président doit toujours être le premier.
Là, vous touchez à un point fort du cérémonial non cérémonial, de la hiérarchie non hiérarchisée, etc. C'est qu'en fait, tout ce qui entoure le président de la République, en tant que président de la République, hein, s'entend, c'est-à-dire dans sa vie privée, quand il mange avec sa famille, on ne sait pas ce qu'il fait, il s'assoit où il veut, mais en tant que figure présidentielle, même quand il n'y a pas de protocole, il y a du protocole. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de faire comme s'il était absolument comme n'importe quel citoyen. Et les chasses présidentielles, par exemple, ça rappelle par certains côtés les chasses royales ou bien même Marly pour Louis XIV, Marly était censé être, à côté de Versailles, où l'étiquette est extrêmement rigoureuse, un lieu sans étiquette, un lieu où la hiérarchie pouvait se rejouer, etc. Et où, en réalité, c'est une autre étiquette qui se rejouait, ce qui permettait au roi de doubler en quelque sorte sa capacité de distribuer de la grâce par l'étiquette, hein, avec Marly, mais où il y en avait autant qu'ailleurs. C'est pareil pour les chasses présidentielles. C'est-à-dire que si quelqu'un, alors particulièrement un chef d'État, va prendre la place du président de la République alors qu'on ne lui a pas proposé, il y aura un conflit protocolaire. Il est évident qu'on ne va pas l'asseoir sur un tabouret dans l'arrière-cuisine, par exemple, à moins qu'il le décide lui-même, et ça fera un événement. Donc, tout ça, c'est de l'implicite, donc c'est de l'évident, mais c'est une évidence qui marque précisément que la hiérarchie et le cérémonial est respecté partout où il y a le président, parce que le président incarne des valeurs qui l'amènent à être partout le premier.
C'est ça qui l'isole aussi, certainement. C'est ça qui l'isole et c'est ça qui crée la cour autour de lui.
Et c'est ça qui en fait la figure du pouvoir aussi. Parce que du même coup, effectivement, il n'est jamais sur le même plan que les autres. Il est donc isolé et en tant qu'isolé, il apparaît comme une figure spécifique. Et c'est ce qui fait son pouvoir. C'est-à-dire que c'est ce qui permet d'identifier partout que c'est bien lui, le président de la République.
C'est probablement un des aspects les plus difficiles à supporter dans la vie de chef d'État et de responsable. C'est cette espèce de distance qui s'installe entre vous et les autres et qui, sauf en famille tout de même, grâce au ciel, existe toujours, s'installe petit à petit, se marque, on le sent. On n'est pas, pour les autres, n'importe qui.
Est-ce qu'on en souffre ?
Moi, j'en souffre.
Est-ce que vous avez essayé, Monsieur le Président, de réduire cette distance et...
J'essaie le plus possible, constamment. J'essaie de me tenir au contact et même de me mettre au niveau, si vous voulez, de chacun. Je le fais d'ailleurs parce que je déteste tout ce qui s'apparente à la solitude.
Son Excellence, Monsieur Anzamora Valdez, ambassadeur du Pérou.
Dès qu'on est vis-à-vis de l'extérieur, et notamment... en matière de politique étrangère, par conséquent vis-à-vis des autres pays ou leurs représentants, on est la France, et ça dicte et votre attitude, et vos paroles, et vos gestes, et même cela conditionne votre pensée. Monsieur l'ambassadeur, c'est bien volontiers que je reçois aujourd'hui les lettres par lesquelles le général Juan Velasco Alvarado vous accrédite auprès de nous comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Pérou.
Georges Pompidou, dans cet entretien, parle de cette distance qui s'est créée autour de lui tout au long de son mandat. Bertrand Evenot, vous avez travaillé avec Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que vous l'avez constaté, cette transformation du président due à l'exercice du pouvoir ?
Moi, ce que j'ai senti, si vous voulez, c'est une dessiccation, enfin, quelque chose qui devenait plus sec, qui devenait plus, pas forcément hautain, mais plus fermé à l'écoute. Je me rappelle certaines visites à Versailles, par exemple. Giscard s'intéressait beaucoup au château de Versailles, à juste titre. Il avait fait des choix, à la fois pour retrouver certains éléments de mobilier qui remontaient à Louis XV ou à Marie-Antoinette. Et en même temps, tout ça aurait pu être fait justement dans la modernité et dans l'ouverture. Et ça l'était quand même un peu dans l'élitisme du goût français, avec la grande exposition qu'il y a eu à la Monnaie de Paris sur ce sujet. C'était presque un peu quelqu'un qui disait, ben voyez, j'ai des choses à vous apprendre, vous êtes mes élèves. Et donc là, il y a eu une espèce d'inversion entre je suis l'acteur de la modernité, je suis porté par la jeunesse française, version 1, et puis version 2, ben, je suis maintenant le maître, je suis investi des foudres de l'État, et donc vous êtes mes enfants et vous êtes mes disciples. Il y a quelque chose d'une espèce de torsion là qui s'est faite psychologiquement, et c'est assez caractéristique de l'isolement du pouvoir quand même. On était à l'époque du septennat, hein. C'était 7
ans.
Long. C'était long. On l'a vu aussi avec Mitterrand, hein. On l'a vu avec De Gaulle, on l'a vu avec Mitterrand. Tous ceux qui sont restés longtemps, il y a cette fermeture. Sur Chirac aussi, c'est ça. Ça a été sensible à certains moments. Disons une espèce de... Il n'y a plus la même énergie, si vous voulez. Il y a une énergie pour monter dans le carrosse, pour monter sur le trône, mais ensuite, il n'y a plus la même énergie pour être le même jusqu'au bout. Il y a une transformation qui se produit.
Parce qu'il y a aussi cette question de rôle en tant que président, une sorte de représentation de soi qui fait que forcément on bride l'individu.
Je crois que c'est une position extrêmement corsetée. Moi, je donnais un souvenir personnel. Je me souviens d'être revenu, je sais pas quelle réunion, à Versailles ou ailleurs, en voiture. Et quand vous traversez Paris à 70 km/h, avec aucune voiture, tout était arrêté, la circulation était bloquée. À l'époque, on bloquait la circulation pour faire passer le président. C'était insensé, c'était irréel, si vous voulez. Donc il y a quelque chose là de l'ordre de l'apparat, du faste et de la dureté et de la rigueur de l'État français qui petit à petit crée une armure, crée un fossé, crée une absence de communication et de porosité entre le monde réel et le monde du pouvoir et les cercles du pouvoir. Je pense à une phrase de Peter Handke qui dit « Aux environs du pouvoir, tout est glacé. Tout est glacé, tout est verglacé. Le pouvoir est froid. C'est ainsi. » Donc la chaleur humaine, petit à petit, décline à l'intérieur du pouvoir.
Vous l'avez constaté, cette transformation, Michel Cotta ?
Si vous voulez, quelqu'un qui a été élu à la présidence de la République, il y en a peu, évidemment, et c'est quelqu'un qui se dit que quand même, pour en arriver là, il a pas mal manœuvré. Alors au fond, déjà, il y a déjà une distance qui se crée vis-à-vis de ceux qui l'ont aidé à se faire élire. C'est-à-dire déjà, les conseillers de toute nature voient leur pouvoir un peu diminuer. Ceux, en tout cas, qui ont aidé le candidat à être élu. Après, assez rapidement, effectivement, la notion de puissance unique change évidemment leur comportement. Et ça, on l'a très bien vu, la dérive sur Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, qui a voulu moderniser la Marseillaise et les cérémoniaux de l'Élysée, et lentement mais sûrement est tombé dans un monarchisme qui a un peu choqué les Français à la fin. Au début, il y avait une volonté d'ouverture et qu'à la fin, il n'y a personne en face de moi à table parce que il n'y a personne en face du président de la République. Je ne dirais pas que François Mitterrand a changé. Le pouvoir n'a pas changé l'homme qu'il était. Mais en revanche, je pense que pour tous ces gens-là, le moment où ils sont élus est quand même la rupture avec tout ce qui a précédé. Et après, c'est très difficile de leur dire, ils trouvent pas les conseillers qui leur disent, voilà, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, parce que d'ailleurs, très souvent, je les ai entendus dire, écoutez, d'accord, sous-entendu, je suis pas là par hasard, je suis pas un perdreau de l'année, alors vos conseils, vous les gardez. Ça, c'est arrivé beaucoup avec Mitterrand, mais c'est arrivé d'une façon générale avec tous les présidents de la République, qui se sont dit qu'ils avaient fait un tel chemin, qu'après, personne pouvait leur donner de conseils. Et d'une certaine façon, c'est vrai. On comprend, mais c'est ça qui crée quand même une certaine rupture du président de la République avec ceux qui sont derrière lui. Il y a quand même une rupture.
Cet isolement, il est constitutif de la fonction présidentielle, à votre avis, Raphaël Baquet ?
Ça, je crois que c'est, hélas, ce qui menace tous les présidents et dont ils n'arrivent pas à se départir, quel qu'il soit. Même quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, si vous voulez, qui était plus, qui tentait de diriger un peu comme un chef d'entreprise, c'est-à-dire de façon presque avec plus de monde autour de lui, même si c'était lui qui assumait totalement l'autorité, on le sait. Mais même un Nicolas Sarkozy, si vous voulez, avec une façon plus moderne, disons, de diriger, il a au bout d'un moment, on s'enferme, on n'a plus que des courtisans, on ne supporte plus les critiques, et c'est là que évidemment la menace arrive.
Le rituel élyséen, avec Olivier Hill, Patrick Garcia, Bertrand Hévenot, Ariane Chemin, Jean Dansonville et Philippe Hubert au château de Chambord, Raphaël Baquet, Nicolas Mario, Fanny Cosandet et Michel Cotta. Extrait du livre de Giscard d'Estaing, Le pouvoir et la vie, prise de son François Rivalant, un documentaire de Christelle Polotek et Vincent Deck pour la série documentaire.
LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez suivre le défilé, bibliographie, lien, nous podcaster pour le 14 juillet ou nous réécouter au manif, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter LSD Série Doc. Demain, troisième épisode, le président bâtisseur. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.